nous avons défini, sinon étudié.
Le wine, le vin,
c'est la terre, c'est aussi le soleil.
Des champis de vinasse.
Bonjour et bienvenue dans la Voix des Vignes. Est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être à tour de rôle, en même temps, ce sera moins facile d'écouter.
Bonjour, Grégoire Follin, je suis le directeur du laboratoire Vecteur. Voilà, formation ingénieur, 43 ans, et papa d'un petit garçon.
Bonjour, Cédric Courtois, donc je suis le directeur scientifique du laboratoire. Donc moi, j'ai 42 ans. Je suis docteur ingénieur en chimie analytique et également papa d'un petit garçon.
Et donc, on l'aura compris, on n'est pas aujourd'hui dans un chai ni à la rencontre d'un vigneron, et plutôt dans un laboratoire. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce qu'est Vecteur, votre domaine d'expertise, voilà pour des gens qui ne vous connaîtraient pas encore?
Alors, le laboratoire Vecteur a été créé en 2004. On fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe GBAE, avec une société sœur qui, dans notre histoire, est importante puisque c'est un distributeur de bouchons, cartons, capsules. Et le laboratoire est né des contrôles internes il y a presque 20 ans de ce distributeur qui a dit « moi, je veux maîtriser un petit peu plus ». Voilà comment sont arrivées les premières machines ici. Aujourd'hui, le laboratoire a évolué énormément depuis ces années-là. Je crois qu'on partage 3-4% de nos clients, donc on n'est vraiment plus du tout interdépendants l'un de l'autre. Extrêmement indépendants, on a renforcé ces notions-là avec notre accréditation COFRAC, donc avec de l'impartialité.
De la confidentialité.
La confidentialité, donc aujourd'hui, il y a vraiment un mur très important entre nos deux activités.
Oui, c'est ce que j'ai vu un petit peu en amont. Vous avez des accréditations assez spéciales qui vous permettent justement pour les vignerons qui viendraient avoir votre expertise d'être, vous êtes vraiment indépendant, un jugement presque impartial.
Alors, c'est notre force dans ce milieu-là. On est un des rares laboratoires totalement indépendants. C'est-à-dire nos fonds, notre fonctionnement, notre groupe n'a pas d'autres activités liées au vinicole que ça. Donc, c'est notre ADN de ce respect de la confidentialité. Quand nos clients viennent nous voir, eh bien, les échanges sont couverts par la confidentialité. Forcément, l'impartialité derrière ça également, puisque on doit traiter la totalité de nos échantillons sans même savoir à qui ils s'adressent. Le COFRAC, en plus, nous challenge, nous impose de progresser constamment sur un niveau de performance et une répétabilité de nos analyses, c'est-à-dire que eh bien, on est constamment en train de vérifier, quand on mesure un nanogramme, que c'est bien un nanogramme, c'est pas 1,1 ou c'est pas 0,9. Et si je fais 10 fois l'analyse, j'aurai 10 fois un nanogramme. Voilà un petit peu l'accréditation, ce qu'elle nous impose.
Et pour un laboratoire, vous en avez parlé, donc j'imagine qu'il y a des technologies qui sont quand même assez pointues. Et ces technologies-là, même si on ne va peut-être pas rentrer dans les détails comment elles fonctionnent, vous êtes quand même à la pointe de la technologie par rapport à toutes ces analyses. Ah, vous êtes obligé de répondre oui, je crois.
Oui, tout à fait, complètement. Elles sont à la pointe de la technologie, elles sont surtout en phase avec les besoins de nos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est des machines qui sont à la base conçues principalement pour l'industrie pharmaceutique, puisque c'est quand même des gros pourvoyeurs d'analyse avec de gros moyens. Et nous, on utilise ces technologies en adaptant des protocoles pour répondre complètement aux exigences de nos clients.
Et après, je sais que vous avez un mot qui vous est cher, c'est la pureté. Et peut-être qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail, et on a parlé un petit peu en amont, des goûts de moisis et bouchons dans le vin. Est-ce que déjà vous pouvez peut-être nous définir ce qu'est la pureté avant de rentrer dans le vif du sujet?
C'est une très bonne question. En fait, aujourd'hui, on réfléchit constamment sur quel est notre métier, parce qu'il est vraiment singulier. Notre métier, c'est cette spécialisation dans ce qu'on appelle l'analyse fine, l'analyse de chimie fine, ça c'est notre savoir, qu'on a appliqué, entre autres, au monde du vin. On reste très modeste. Notre travail, c'est veiller sur l'authenticité des arômes. Alors, vous parliez du moisi bouchon, mais on travaille aussi bien sur des défauts que des qualités du vin, ou des bouchons, ou des bois de tonnellerie. Qu'est-ce qu'une chauffe va apporter, tel type de chauffe va apporter à un vin, etc., etc. Notre métier, voilà, c'est de s'assurer que chaque cuvée du viticulteur, le produit fini, reflète exclusivement le travail du vigneron et qu'il n'y ait aucun perturbateur, qu'il soit organoleptique, qui vienne dénaturer l'expression du terroir. Voilà. Moi, j'aime bien dire que mon métier, c'est que 100% de ce qui va être le vin, c'est vraiment l'intention du vigneron et le terroir. Voilà. Qu'il n'y ait pas des éléments autres.
Ok. Et donc, on ne parle pas forcément du goût de bouchon, parce que je sais que dans le monde viticole et vinicole, c'est vraiment un des défauts majeurs, et tout de suite, on va accuser le bouchon. Mais chez vous, on parle des goûts de moisi et de bouchon. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est le lait et pas le?
Alors là, j'irais même encore plus loin. On devrait parler des goûts de type moisi, dit de bouchon, puisque à l'origine, on l'a principalement découvert au travers du bouchon. On parle des goûts de moisi, pourquoi le pluriel? Puisqu'il y a principalement quatre molécules responsables de l'expression aromatique, je vais faire raccourci, de moisi bouchon. Donc, on a le trichloroanisol, le plus connu, le TCA, qui a une principale source, effectivement, liée au bouchon, mais pas que. Et on a également d'autres apports, que ce soit le tétrachloroanisol, le TECA, ou le pentachloroanisol, le PCA, où là on sera plus sur des origines environnementales. Et on a un petit dernier qui est le tribromoanisol, qui également, lui, peut avoir des origines liées aux retardateurs de flamme ou liées à des produits d'hygiène.
Ou à l'eau, certains.
je dis d'hygiène puisque il est rajouté à l'eau. Mais voilà, il a une vocation de par son précurseur. Il a une vocation d'hygiène.
Et si je refais encore un rapport, ça veut dire que ces mauvais goûts pour un viticulteur qui serait confronté à des lots ou à se dire ah mon vin est bouchonné, on peut dire que c'est pas forcément le bouchon qui est en cause. Il y a plusieurs facteurs. Vous avez parlé un petit peu en amont et en off du triangle du feu. Est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu nous expliquer tout ça et puis nous citer un petit peu peut-être des cas concrets, des facteurs que vous avez pu rencontrer qui ont donné ces défauts-là?
Je laisserai la parole à Cédric pour parfaitement expliquer le triangle du feu. Aujourd'hui, on intervient, on a vraiment trois métiers chez Acteurs, ce qui est notre singularité. On fait de l'analytique. Mais l'analytique est au service des conseils, des audits et de l'expertise qu'on va donner à nos clients. Deux activités différentes. Et on travaille depuis presque 20 ans aujourd'hui sur des solutions à mettre en œuvre qui fonctionnent et qui fonctionnent très très bien. C'est pour ça que ce que vous disiez en préambule cette peur du moisi bouchon, qui était découverte il y a plus d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on a un arsenal de solutions. Donc, je veux toujours être très rassurant. Ce qui se passe, par contre, c'est vrai qu'il y a eu toute profession confondue, bouchonnier, tonnelier, un énorme travail qui a été fait ces dernières années, justement pour réduire les cas dus à ses contenants ou aux bouchons. je pas donner de statistiques, mais je dirais sur un dossier bouchon, on a 19 dossiers environnementaux.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est voilà, vraiment avéré. Les sujets bouchons se font, existent encore, mais se font de façon beaucoup plus rare et pas directement liés à la matière du bouchon. C'est-à-dire qu'on peut avoir un stockage de bouchons dans un mauvais endroit qui a capté et qui va donner au vin une déviance. Voilà. Donc c'est... ces 20 dernières années ont été quand même une évolution majeure, mais il y a encore plein de cas de moisis bouchons, bien entendu.
Oui, donc le triangle du feu. Comment arriver à ce démarrage d'incendie, donc au goût de moisis bouchons? On a besoin de trois éléments pour arriver au goût de moisis bouchons. Il faut une première chose, c'est de la matière organique. Ce qui est bien dans le monde du vin, et même dans notre environnement en général, il y en a partout. Et ça, on va le caractériser par le phénol. Il faut une deuxième chose, c'est du chlore. Alors quand je parle de chlore, je vais parler de chlore actif. Un chlore qui va être réactif, qui va vouloir se combiner pour arriver à un état plus stable. Et donc ce chlore, quand il va rencontrer le phénol, il va se combiner et on va arriver aux halophénols. Les halophénols, ce sont des composés qui sont utilisés, tout à l'heure je parlais d'hygiène, qui sont là pour éliminer les micro-organismes, les moisissures. Donc quand une moisissure va se retrouver confrontée à un environnement chargé en halophénol, il va mettre un mécanisme de défense en place, et donc pour réduire la pression de son environnement, il va biométhyler cet halophénol en haloanisole correspondant, qui pour lui ne sera pas toxique. Et là, forcément, on a l'expression de ce goût, de cette odeur de moisis bouchon.
Et donc là, un viticulteur qui serait confronté à ça, on est bien d'accord que gustativement, s'il perçoit ça, il ne pourra pas seul comprendre d'où est le problème. Et une analyse sera obligatoire.
En fait, nous, c'est notre philosophie, on confronte toujours l'exercice de la dégustation à l'analytique. Ça, c'est l'expérience terrain qui nous fait dire ça. Seule une dégustation ne peut pas vous permettre d'identifier le risque, et seule une analyse ne peut pas vous permettre de conclure sur vraiment une déviance et de mesurer la déviance dans le vin. Il y a vraiment aujourd'hui, sur des vins très exigeants, type champagne, avec des bulles, volatilisation importante, on va descendre en dessous souvent de 1 nanogramme par litre de TCA sur vraiment la déviance perceptible. Après, sur d'autres vins, en allant sur des vins rouges, il suffit qu'il y ait, même sur des liquoreux, hop, on remonte cette valeur-là, jusqu'à 3, 4, voire un peu plus. Donc chaque vin, un vin d'Amérique du Sud, avec plus d'alcool, ça va masquer un petit peu ses arômes. Voilà. Donc il faut vraiment confronter toujours la dégustation avec l'analytique pour pouvoir déjà, ce qu'expliquait Cédric, par la nature de la molécule, l'orienter sur le phénomène qui s'est passé. Si on va avoir des molécules, comme il expliquait, de type TCA, on est plus souvent sur un produit chloré dans l'environnement qui a été utilisé, ou une eau, etc. Si on est plus sur du TECA, ben on est plus sur un sujet environnemental, un traitement de charpente ou autre. Donc ça, c'est important d'identifier la molécule. Ensuite, la valeur est importante. C'est-à-dire que je peux goûter un vin et dire, y a pas de déviance, mais il y a une valeur assez élevée. C'est-à-dire que la complexité aromatique du vin masque ça, mais attention, le drame n'est pas loin. Mmh. Voilà. Et donc là, on peut vraiment en anticipation et pas attendre le fait de dire toute ma cuvée est déviante. vraiment intervenir sans que ce soit dramatique. Voilà.
Et après, je sais aussi que vous êtes assez précis sur les causes qui peuvent amener à ces goûts-là. Et notamment, là, vous avez évoqué la charpente. Et on entend souvent dire que, par dogmatisme peut-être, mais une charpente peut amener systématiquement à des goûts moisis-bouchons. Alors, est-ce que la charpente est vraiment un problème ou c'est plutôt le traitement, comment ça a été fait? Est-ce qu'un chai doit être dépourvu forcément d'une charpente bois? Ou est-ce qu'on peut imaginer plein d'autres choses?
Alors, c'est notre philosophie, on est scientifique. Pas de dogme. Non, vraiment, aucun dogme chez nous. Malheureusement, sur le terrain, on voit que les gens font des raccourcis. Il ne faut pas faire de raccourcis. On a quantité de cas d'expertise de moisis bouchons avec une charpente métallique. C'est souvent très étonnant. Les gens disent « mais j'y aurais pas pensé ». Mais et j'ai plein de cuvries aujourd'hui qu'on accompagne sur des constructions en charpente bois. Il faut se priver de rien, il faut maîtriser. Voilà. C'est-à-dire, si vous mettez une charpente bois, eh bien, l'idéal est de faire un prélèvement de la charpente qui arrive et de maîtriser les produits de traitement, s'il y a produit de traitement, s'il y a nécessité ou pas. Et là, comme on parlait du triangle du feu, ben, s'il n'y a pas de chlore, il n'y a pas de sujet. Vous pouvez avoir du bois, même dans un environnement avec des moisissures. Ça ne pose pas de problème. D'un autre côté, je mets une charpente métallique. Et si je vais mettre, ce qu'un bureau souvent de contrôle vous dira, un retardateur de flamme, souvent c'est cette pulvérisation, ces mousses, ces watts qu'on va avoir, ben les retardateurs de flamme bromés, ben vous allez avoir, avec de l'humidité et un développement de moisissures, du moisis-bouchon. Donc aujourd'hui, pas de dogme. Nous, notre métier est vraiment, chaque cas est différent. Quand on travaille sur une construction, on dit à l'architecte, allez-y, utilisez tout ce que vous voulez. Nous, on est là pour sécuriser. Voilà. Mais si vous voulez mettre de la charpente métallique, mettez, on sera vigilant sur certaines choses. Si vous mettez une charpente bois, allez-y, il faut être vigilant sur d'autres choses. Donc, voilà, il n'y a pas de... Et deux situations ne sont jamais identiques.
Donc, j'ai bien compris que vous pouvez intervenir dès la conception, donc discuter un petit peu avec l'architecte des différents matériaux à envisager qui potentiellement pourraient représenter un risque. Mais concrètement aussi, comment ça se passe si demain un vigneron a un problème et n'arrive pas à l'identifier? Comment vous intervenez? Comment ça se passe sur le terrain?
Alors, il faut être très méthodique. Nous, on a mis en place des audits qu'on utilise dans énormément de situations. On va l'utiliser sur les ventes de domaines. Vous achetez un domaine, bien, c'est un vice caché que d'avoir un environnement contaminé. Donc aujourd'hui, on travaille avec des organismes, soit des vendeurs professionnels, soit des organismes comme la SAFER, simplement pour sécuriser la vente, que le vendeur sache ce qu'il vend, que l'acheteur sache ce qu'il achète. Donc c'est un diagnostic. Un viticulteur qui a un souci, eh bien on va être dans la même démarche. Pas de raccourci, donc on vient, on va sur site échanger avec lui, comment est-ce qu'il travaille, quels sont ses process. On va regarder l'environnement dans lequel il travaille, on va prélever les éléments qui sont les plus caractéristiques. On va chercher, bien sûr, s'il y a un souci, on sait qu'il y a un souci, on va chercher à identifier la source, ce qu'on appelle primaire. On va regarder son impact sur l'ensemble des matériaux, parce qu'il y a bien un échange entre les matériaux. Et on va lui faire une cartographie finalement de son bâtiment. On va identifier les sources et on va à la fin lui proposer un ensemble de solutions pour se débarrasser de ce sujet-là. Les solutions étant très pragmatiques, elles peuvent être techniques, appliquer un vernis spécial sur ces charpentes, maîtriser l'eau de réseau, etc., etc. On aura identifié la source. Ou elles peuvent être simplement méthodologiques. Ben, écoutez, là, vous changez juste un tout petit peu votre process à tel endroit et le problème sera réglé.
Et j'imagine que vous avez peut-être une liste de phénomènes qui impactent un petit peu, qui donnent tous ces goûts de moisis bouchons. Est-ce que c'est une liste qui est énorme? Est-ce qu'il y a vraiment, je ne sais pas, 30 possibilités différentes pour avoir arrivé à ces goûts-là?
Alors je reprendrai l'expression de Grégoire, et il ne faut pas faire de dogme. Chaque cas est unique. Souvent, on n'a pas une seule source. On a un contexte, un moment qui a favorisé l'apparition de ces molécules. Alors, l'exemple très bête, c'est peut-être un traitement de charpente dans les années 80. Et ensuite, on a tout le vécu du bâtiment et avec différentes pratiques. Et à la fin, on se retrouve avec une ou des sources primaires et des sources secondaires. C'est souvent multifactoriel. Et là, on va essayer de faire en sorte de hiérarchiser l'ensemble de nos préconisations. Mais si on doit faire simple, on a plusieurs sources de base. L'environnement dans lequel on travaille, les intrants et le process.
Et vous aviez donné un exemple la dernière fois qu'on s'était vu, notamment sur l'eau de vie. Est-ce que vous pouvez un petit peu le repartager? Je trouve que ça montre vraiment jusqu'où on peut aller et jusqu'où on a vraiment cette précision d'un vigneron qui avait ces goûts-là, et je trouvais cet exemple assez extraordinaire.
Alors, c'est vrai que c'est un... on a écrit une phrase chez nous, hein, qui sont issues des accords Toltec. c'est savoir écouter, mais toujours rester sceptique, en fait, toujours rester en éveil. On s'inscrit dans une méthodologie de travail. Après, comme me disait un ami, l'expérience. Finalement, plus on fait de terrain, plus on fait d'expérience, plus on voit des choses. Et c'est vrai qu'aussi, plus on va vite. Mmh. Mais on a des sujets qui nous ont énormément animés. Un client qui fait des vins excellents, reconnus dans le monde entier. Ces vins sont vraiment très très bons. Si ce n'est qu'il y a quelques traces d'haloanisole. Pas sur un seuil de perception, il n'y a pas de défaut dans les vins. On a une technique alors, spécialement au laboratoire, qu'on peut faire que sur de petites quantités, pour extraire ces molécules-là. Et on déguste à l'aveugle les vins avec et sans. Et puis il y en a un qui est meilleur que l'autre. Et c'est sans. Et donc là, bah, la question se dit... Allons chercher ces traces. On connaît ce domaine, c'est l'exigence même sur toutes les étapes. L'eau est déchlorée, c'est contrôlé. Et en fait, pour identifier cette micropollution, ça a été un gros travail et le diable se cache dans les détails. C'est de l'eau de vie, c'est ce que certains viticulteurs font. Eh bien, c'est nettoyer les cuves avant l'arrivée de la vendange avec une fine, un mar, une eau de vie. Cette eau de vie contenait des molécules. Voilà. Et donc, bah, vous utilisez votre cuve, les fermentations se passent, le vin capte. Et voilà comment on a des traces et on récupère les lits, on refait de l'eau de vie avec, donc on récupère ces molécules-là et on les remet l'année d'après dans la cuve.
Et ce viticulteur a arrêté d'utiliser cette eau de vie, a changé d'eau de vie et le problème était réglé.
Exactement.
Là, c'est quand même fou comme ça peut être aussi simple et comment ça peut demander autant de réflexion.
C'est pas facile à trouver. Ça demandait beaucoup de travail.
Voilà. Et Est-ce que vous intervenez un petit peu partout? Quels sont vos lieux d'intervention? Et puis, est-ce que vous intervenez sur différents types de domaines, que ce soit un domaine qui peut faire peut-être 1,5 hectare, comme celui qui vinifie des centaines et des centaines d'hectolitres?
Alors, on travaille avec la totalité de la profession. Les viticulteurs, alors du domaine de toutes petites appellations, on parle de Janière, je vais parler du Vendômois, des appellations
plus confidentielles.
De la même façon qu'on travaille avec des très grands châteaux et des très grands faiseurs. Le besoin n'est pas le même. On va travailler avec certains sur une démarche qualité, sur les aider dans leur démarche qualité, créer leur plan de contrôle, de façon vraiment en anticipation qu'il n'y ait aucun risque. Avec certains, on va travailler sur des protocoles de recherche. Dans le temps, l'enjeu de certaines molécules, certains arômes, certains... avec des petits... des appellations confidentielles, y a une volonté de progression, il y a une transmission de domaine, une envie de changer de style on écrit nous souvent la pureté, votre valeur ajoutée, c'est-à-dire faire des vins dans le style qu'ils veulent le faire, mais la plus belle qualité qu'ils peuvent le faire. On est là pour les accompagner là-dessus. Après, on partage notre temps, j'aime bien dire de façon très équitable, entre les grandes appellations, enfin que ce soit la Bourgogne, la Champagne, le Bordelais, l'Anjou, les vins de Loire, de la même façon que dans le sud, le sud-est. Il n'y a vraiment pas, on n'est pas limité là-dessus. Et depuis quelques temps, de plus en plus, les États-Unis, l'Amérique du Sud, sur des domaines pareils de toutes les tailles.
Oui, parce qu'on n'a pas forcément dit peut-être dans la présentation, mais il existe un seul laboratoire et il est situé à Beaune, mais c'est ce qui ne vous empêche pas de partir un petit peu partout dans le France et dans le monde.
C'est notre singularité, c'est-à-dire qu'on... on estime que ça sert à rien de faire de disperser notre compétence. On préfère avoir un site, on échange tous les jours sur ce qu'on a vu, sur les exemples qu'on a cités précédemment, et on enrichit cette équipe. Aujourd'hui, c'est très facile d'intervenir, de se déplacer. D'autant plus que notre ADN, c'est souvent d'aller régler un sujet ou mettre en place un plan. On travaille en collaboration avec des œnologues partout. Eux, leur travail, ils sont au chevet du vin. Ils ont besoin de suivre les transformations, les fermentations, etc. Nous, on vient sur un sujet pour accompagner la personne, pour qu'il le maîtrise, pour qu'il règle ses problèmes ou pas, ou qu'il progresse. Après, on est là pour lui donner les clés de continuer, mais on n'a pas la nécessité d'y être au quotidien. Bon, il y a deux points qui me tiennent à cœur. La première des choses, c'est de remercier les viticulteurs et tous les métiers autour de la viticulture, parce qu'aujourd'hui, savoir-faire... sans eux, sans leur exigence, sans leur questionnement, c'est un moteur pour nous, ça nous a permis de progresser. Aujourd'hui, on est en train de déployer cette connaissance-là, c'est un juste retour des choses, à d'autres secteurs d'activité. Très fier d'avoir accompagné quelques crèches. Alors ça, c'est notre côté parents aussi. C'est forcément des choses qui nous sensibilisent énormément. Mais aujourd'hui, on est souvent un peu dur avec la viticulture, sur les produits employés, etc. Mais ce niveau d'exigence sur les qualités d'air intérieur, aujourd'hui, on est en train de les déployer sur des environnements pour des enfants, des environnements pour vivre. faut pas oublier d'où ça vient, donc il faut vraiment leur rendre hommage, parce que c'est eux qui nous ont poussés à cette dynamique-là. Voilà, c'est, et toute région confondue.
Mais écoutez, c'est parfait pour moi, merci beaucoup. Et puis je crois qu'on pourra peut-être se redonner rendez-vous pour évoquer d'autres problèmes dans le vin, comme par exemple les brettes. Mais,
avec plaisir.
Merci à vous.
Merci.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. Comme vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est aussi de confronter les différents avis. Si vous avez des remarques, des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram. Nous sommes aussi joignables par email, toutes les informations sont dans la description. Thank you.